Alors j'attends de savoir à quel endroit précis de l'explication nous nous sommes arrêtés la dernière fois.
À la répétition de l'adjectif petit.
Comment ?
À la répétition de l'adjectif petit.
À la répétition de l'adjectif petit, petite main sale, petite paix, petit bonheur. Donc on était sur la nostalgie de l'enfance, deuxième partie. Je vous avais donné le plan général. Oui, oui. Non, oui, bon. Vous notez, petit 3, une reconstruction en forme d'inventaire. Alors qu'est-ce que c'est qu'un inventaire? C'est une liste. Hein, c'est le fait que vous avez une série de phrases nominales. Hein, on verra que si on garde de près, il y a quand même quelques embryons de phrases verbales. Alors ce procédé de biographie en forme d'inventaire a été expérimenté précédemment par Georges Perec, P-E-R-E-C, dans un ouvrage qui s'intitule « Je me souviens ». Il a procédé à peu près de la même manière que Cohen, à l'exception qu'il a fait précéder chacun des éléments de sa liste de l'expression « Je me souviens ». Hein, je me souviens des Mistral gagnants, je me souviens des tramways, je me souviens du cinéma, du café Le Flore, etc., etc. Hein, donc c'est une espèce de litanie hein, qui montre qu'il a l'extrait de sa mémoire, ses souvenirs. Cet ouvrage de Perec, je me souviens, a été adapté au théâtre et interprété par le comédien Samy Frey. Alors on va voir aussi que, alors inventaire ça veut dire théoriquement chez nous quand on fait l'inventaire ça veut dire quelque chose de bien rangé, qui est en ordre. Hein, mais ici l'inventaire on peut avoir le sentiment que cette liste est en partie désordonnée. Hein, il y a une apparence de désordre dans la liste que nous donne des émotions, des événements que nous donne Cohen. Néanmoins, alors, bien entendu, on peut dire c'est la logique de la mémoire, c'est-à-dire quand on essaie de se souvenir, les choses ne vous viennent pas dans l'ordre, mais on va s'apercevoir que néanmoins, Cohen a rangé. Hein. Quand il parlait de sa plume dans l'extrait précédent, il disait que sa plume était à la fois libre d'une certaine façon, mais en même temps dirigée. Hein, et là, la même chose, cette mémoire, on va être en face quand même d'une mémoire reconstruite. Hein, on n'est pas dans le réalisme du désordre complet de la mémoire, c'est-à-dire qu'ils vous reviennent, certains m'ont écrit quelque part, qui vous reviennent par flash. Hein, oui, ça revient par flash, mais ici, ça n'est pas vraiment dans le désordre. Ce que vous avez remarqué, c'est que le texte est composé uniquement de 4 phrases. Hein, 2 longues phrases. On ose à peine dire des phrases puisque ce sont des phrases verbales, puisque ce sont des énumérations. Alors, il y a ce qu'on pourrait appeler, donc, dans les 2 premières grandes phrases, la remémoration, c'est-à-dire le fait de se remettre en mémoire, et moi je dirais aussi une espèce de résurrection de l'enfance, oui, une espèce de résurrection du passé. Je termine ça et je réponds. Alors, 2 phrases, la première qui occupe les lignes 1 à 7, la deuxième phrase qui occupe les lignes 7 à 21, c'est-à-dire quasiment jusqu'à la dernière phrase, hein, les deux autres phrases étant très courtes hein, et n'occupant que très peu de place. Ces deux grandes phrases, ces deux grandes phrases s'ouvrent toutes les deux par ce qui est grammaticalement appelé un vocatif, c'est-à-dire le O dominé par un circonflexe, hein, vocatif que j'appelle moi aussi quelquefois O lyrique, hein, qui marque l'expression des sentiments de l'auteur, et on pourrait dire, puisqu'on a dit qu'on était entre le lyrisme et l'élégie, un haut également élégiaque. Mais là, c'est plutôt un haut émerveillé, hein, mais également peut-être aussi un haut de regret. Alors, le procédé, c'est celui... Alors, la figure de style, si vous voulez, c'est l'énumération, hein, et l'effet produit par cette figure de style, c'est ce qu'on appelle l'effet d'accumulation. Quand vous énumérez, vous produisez un effet d'accumulation, ici, accumulation d'éléments juxtaposés, c'est-à-dire posés les uns à côté des autres, sans autre liaison, et plus particulièrement, sans verbe. Voilà, on s'interrompt 30 secondes, puisqu'effectivement, je ne vous ai pas rendu les copies que je vous dois, et je vais le rendre à ceux donc qui pourraient les réclamer. Alors j'en ai une qui est arrivée. Est-ce que Laura est là? Laura Massa, elle n'est pas là, donc c'est pas la peine que je me fatigue. Donc Cécile Clément qui me réclame pour la deuxième fois. Voilà. Yann qui n'est pas là, mais son cartable, c'est le noir, c'est ça?
Non, c'est
celui-là. Celui-là? D'accord. Alexandre, derrière. Maxime est ici. Maxime est ici. Et Michael est là-bas. Donc on reprend, quatre phrases, on a dit, compose le texte. Alors, ce qu'il faut dire, on vient de dire que ces deux grandes phrases sont des phrases nominales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de verbe, mais si on regarde de près, on va voir néanmoins que les phrases ne sont pas, que les verbes ne sont pas totalement inexistants. Hein, donc on va repérer dans cette énumération des subordonnées. Hein, des subordonnées et une coordonnée. Une indépendante coordonnée, mais qui est coordonnée à l'énumération. Donc vous avez la première subordonnée, ligne 5, baiser de maman qui me disait après avoir bordé mon lit. Hein, donc une relative ici, et juste derrière, qui me disait, après avoir bordé mon lit, que maintenant j'allais faire mon petit voyage dans la lune avec mon ami un écureuil. Hein, ces deux relatives jouant pour la première le rôle d'adjectif derrière maman, maman qui me disait, hein, et la seconde jouant le rôle de complément par rapport à la relative précédente, hein, qui me disait que maintenant j'allais faire, etc. Mais on a relative, on a la seconde, ça s'appelle une complétive, mais on n'a pas de proposition principale. Hein, il n'y a pas de proposition principale. Alors, vous avez donc ces deux relatives-là. Un peu plus loin, à la ligne 11, vous avez votre indépendante coordonnée qui commence par « et », donc hein, par une conjonction de coordination. « Et j'arrachais la croûte toujours trop tôt ». Là, vous avez une belle image de l'enfance, une notation très précise sur ce que font les gamins, hein, c'est-à-dire « genoux écorchés et j'arrachais la croûte toujours trop tôt hein, ». Bon, il est pressé, il enlève sa croûte et ça saigne en dessous. Hein, c'est du vécu, même bien entendu, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, l'indépendante coordonnée, et vous avez encore derrière deux relatives à propos du cirque Alexandre, c'est-à-dire cirque Alexandre où elle me menait une fois par an, c'est une proposition relative, qui le pronom relatif c'est où, hein, où qui représente le cirque Alexandre, et derrière vous en avez une autre, hein, et auquel je pensais, c'est toujours le cirque Alexandre que remplace auquel je pensais des mois à l'avance. Hein? Donc on a ici quand même quatre propositions, hein? Même si la majorité des phrases, si les phrases restent, demeurent des phrases verbales, à partir du moment où il n'y a pas de principal, c'est une phrase verbale. Hein? Alors on revient sur la première phrase. Elle s'ouvre, cette première phrase, sur un vocatif qui est suivi de trois termes. Hein, ce rythme ternaire est symptomatique du lyrisme. Alors, « Ô mon passé, ma petite enfance, aux chambrettes », donc en trois. Hein, et cette première phrase évoque d'abord la petite enfance, hein, puisque la deuxième phrase sera consacrée à l'étape suivante, c'est-à-dire l'enfance. Elle évoque cette petite enfance, s'articule autour de l'évocation d'une intimité douillette, hein, d'un décor rassurant et confortable, là, alors, dans lesquels on va trouver la chambrette, les coussins, les chromos, c'est-à-dire des images, hein, des images, on vous dit de ces chromos qu'elles sont vertueuses, c'est-à-dire qu'elles racontent des histoires morales, qu'elles incitent à la morale, ou encore, elles sont peut-être, moi je dirais, vu l'éducation familiale, hein, on rappelle que Cohen était juif, ça peut être aussi des images pieuses, hein, ça peut être aussi des images en rapport avec la religion. Donc les chromos, la cuisine, les dentelles, les veilleuses, le lit. Hein. On observera dans cette première phrase que l'univers qui est présenté, c'est l'univers du tout petit enfant. Alors cet univers, il consiste en trois lieux, en trois lieux qui sont la chambre de l'enfant. Le deuxième lieu, c'est la cuisine. Et le troisième lieu, qui est évoqué au moins par la naphtaline, par exemple, hein, la chambre des parents. Hein, c'est l'univers du petit enfant. Dans la seconde phrase, hein, qui commence également par un vocatif, qui est symétrique du premier, le premier, au mon passé, ma petite enfance. Alors ça a commencé au mon passé par un terme général, hein, mais ma petite enfance précisait la première étape chronologique de cette évocation. La deuxième étape, c'est au mon enfance, donc il est plus grand, et cet univers va s'élargir. Il est au début de la phrase centré sur la cuisine peut-être, mais centré sur la gourmandise. Hein, on verra que sur l'ensemble du texte, la gourmandise tient une bonne place, une grande place. C'est dire peut-être que Cohen est gourmand, mais c'est significatif également de la présence de la mère. Hein, la présence de la mère se manifeste par ces gourmandises qu'elle offre au jeune enfant. Hein? Donc, l'univers, dans la seconde phrase, de l'univers de l'enfance, s'élargit un petit peu, c'est-à-dire qu'on va passer, on va encore avoir l'évocation de la cuisine à travers les gelées de coin, mais derrière, on a aussi ce qui arrive par la poste, c'est-à-dire les journaux illustrés du jeudi, probablement un abonnement. Hein, ce qu'on appelle les journaux illustrés à cette époque-là, ce sont les bandes dessinées. Hein, journaux illustrés, ce sont les bandes dessinées. Alors, ours en plus, convalescence, chérie, les convalescences évoquent implicitement, bien entendu, les maladies, mais le moment le plus heureux de la maladie. C'est-à-dire le moment où on n'est plus vraiment malade, et c'est-à-dire où on souffre moins, et où on ne retourne pas encore à l'école. Hein, et juste derrière, alors ce qui va être évoqué, on y reviendra tout à l'heure, c'est l'ensemble, les fêtes, hein, c'est-à-dire Noël, le Nouvel An, et puis ce qui est en rapport avec l'univers de l'école. Puisqu'il est plus grand, il va à l'école, hein, et on va vous évoquer les fables de La Fontaine qui peuvent être mises en rapport avec les leçons, hein, mais aussi avec ces fables de la Fontaine, une mise en scène qui semble maintenant à Cohen, qui semble maintenant ridicule. Hein. On le met debout sur la table, un peu comme un acteur, hein, comme s'il était un grand. Je passe sur les bonbons à fleurettes rapidement en vous disant que l'expression bonbon à fleurettes désigne probablement les petits bonbons à la violette, hein, qui sont en forme de fleurs. Hein. Voilà. Donc on va plus vers le milieu extérieur, on évoque alors à l'extérieur les foires, hein, c'est-à-dire pour l'enfant très certainement les manèges, hein, et le cirque Alexandre, et puis enfin l'école. Alors s'il y a dans l'énumération de Cohen un certain désordre, ben, c'est peut-être aussi pour traduire le désordre de la mémoire et l'aspect, son fonctionnement en quelque sorte affectif, hein, et un fonctionnement qui n'est pas nécessairement logique. Hein. Les souvenirs remontent à la mémoire, ils me reviennent à la mémoire, et ils s'associent d'eux-mêmes. Et justement, ça va être notre petit 4, hein, petit 4, les centres d'intérêt, ces événements de la mémoire peuvent être regroupés selon un certain nombre de centres d'intérêt. Alors, premier centre d'intérêt que j'ai déjà évoqué, c'est-à-dire les lieux, hein, les éléments du décor, et dans les lieux, les éléments du décor, vous pouvez mettre la chambrette, vous pouvez mettre, alors ça c'est le lieu, hein, la petite chambre, les coussins brodés qui font partie du décor, hein, les chromos aussi font partie du décor, le papillon du gaz qui sert à ouvrir, fermer le gaz, hein, les veilleuses de porcelaine qui évoquent aussi la chambre, hein, et l'idée, la petite réflexion de l'enfant, c'est-à-dire j'ai peur du noir, en quelque sorte, et la veilleuse sert à conjurer cette angoisse de la nuit. Donc, premier centre d'intérêt, les lieux, les éléments du décor. Deuxième centre d'intérêt, les célébrations et les fêtes qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'on vous évoque le nouvel an, les anniversaires, mais aussi les foires, hein, vous savez que c'est un événement qui revient chaque année, et le cirque, même chose, hein, la présence du cirque dans la ville est régulière, revient aux mêmes périodes. Alors après les lieux, les célébrations et les fêtes, en troisième point, les gourmandises. Hein, alors là, je vous ai dit tout à l'heure, ça tient une bonne place dans le texte, vous avez les confitures, les tisanes, les pâtes pectorales, bon, bien entendu, c'est fait pour soigner, mais c'est des sortes de boules de gomme avec du sucre dessus. C'est pas trop mauvais. Le sirop d'orgeat, qui peut sembler exotique à vous, qui provient peut-être de le... Peut-être, est-ce qu'on buvait plus facilement le sirop d'orgeat en Grèce, hein, ou sur l'île de Corfou, où est né Cohen. Les gelées de coin, les dindes de Noël, les bonbons à fleurettes dont j'ai parlé tout à l'heure, et aussi les goûters de pain et de chocolat, en soulignant par exemple à propos des goûters de pain et de chocolat, que ça nous signale un moment de la journée, un moment rituel de la journée. Et puis aussi les gâteaux de maman, hein, les gâteaux. Voilà, donc on a dit les lieux, éléments du décor, les gourmandises, troisième centre d'intérêt, les objets d'écoliers, hein, ce qui va avoir rapport à l'école, les cahiers. Hein, alors, ce qu'il faudra peut-être pas oublier de souligner, ce sont les adjectifs qui accompagnent ces objets. Hein. On va trouver une espèce d'ironie, hein, de la part ou d'évocation amusée en tout cas de l'émerveillement de l'enfant et de la façon dont de la capacité de l'enfant à se constituer des trésors avec ses objets d'école. Hein, donc vous avez par exemple les cahiers neufs. Hein, et puis aussi, plus amusant peut-être, le sac d'école en faux léopard, hein, donc une espèce de faux luxe, mais dont l'enfant se fait un vrai luxe, un luxe personnel. Et puis derrière, toujours évoquant une espèce de grand luxe, une idée de trésor, les plumiers japonais, l'idée de l'exotisme, mais aussi les plumiers, le côté technique, c'est-à-dire les plumiers à plusieurs étages, hein, parce qu'il y a les plumiers simples à un seul étage, hein, et puis les plumes. Hein. Donc là, l'association d'idées est évidente, hein, puisqu'on a plumier. Alors l'origine du terme plumier, évidemment, c'était autrefois la boîte dans laquelle on rangeait les plumes pour écrire. Et c'est devenu la boîte dans laquelle on met les accessoires d'écriture, c'est-à-dire ça peut être le porte-plume à cette époque-là, hein, et puis plus tard ça pourra être des stylos. Maintenant vous avez des trousses et non plus des plumiers. C'était en bois les plumiers, hein. Hein, c'était des boîtes en bois avec une espèce de petit couvercle qui se tirait un peu comme les... ça ressemble un peu aux boîtes à dominos par exemple, hein, vous avez une petite planche, un tirette au-dessus. Alors les plumiers donc à plusieurs étages, et puis on en arrive de plumiers, on arrive très logiquement à plumes. Hein. Alors les plumes sergent-major, quelque chose de glorieux dans l'énoncé de ces plumes, et aussi les plumes baïonnettes. Hein. Alors si on associe les deux termes sergent-major et baïonnette, et voilà, il y a une connotation militaire, et le petit garçon qui va à l'école, eh ben, c'est, voilà, par connotation, c'est une espèce de, c'est un petit soldat. Hein, et cette image, cette petite image de gloire, on l'avait déjà tout à l'heure dans l'idée de la récitation, hein, où il récitait debout sur la table comme un acteur de théâtre sur la scène. Hein, c'était un peu l'idée, je pense, de la maman, et puis de le mettre, de grandir l'enfant en quelque sorte, hein, de lui suggérer de grandir. Et vous, cette idée de trésor, hein, elle est poursuivie encore derrière par les noyaux d'abricots thésaurisés, c'est-à-dire gardés comme si c'était un trésor, hein, la boîte à herboriser, même chose. Hein, on ramasse des herbes et on les identifie. Hein, bon, on constitue un trésor. Bien entendu, les billes aussi, hein, constituent un trésor parce que ces billes étaient... alors là, ici, on vous dit des billes d'agate, c'est-à-dire que c'est de la peinture dans du verre, en quelque sorte. Hein, et c'était des trésors parce qu'elles étaient toutes différentes, qu'elles étaient jolies, etc. Hein, ces billes, on joue avec, bien entendu, hein, mais aussi on les collectionne. Hein. Il y a l'idée de collection. Alors l'idée de collection, elle va un peu avec aussi le fonctionnement de l'extrait, hein, c'est-à-dire qu'on a ici une collection d'images de l'enfance. Hein, c'est organisé un peu comme une collection d'images de l'enfance. Voilà, alors on était donc arrêté ici sur les objets d'écoliers, et comme centre d'intérêt encore derrière, vous avez ce qu'on peut appeler les moments privilégiés. Alors les moments privilégiés, ça fait allusion à la compagne de Jean-Paul Sartre, qui s'appelait Simone de Beauvoir, et qui nous raconte que quand elle était enfant, elle avait remarqué que dans les livres qu'elle lisait, il y avait des illustrations, Et elle s'était demandé pourquoi on illustrait tel passage du roman ou tel passage de l'histoire. Et elle en avait déduit que c'était des moments importants, bien entendu. Et elle les avait appelés, ces moments-là, qui étaient illustrés dans ses livres, les moments privilégiés. Hein, c'est-à-dire, pourquoi on n'illustre pas la totalité de l'histoire ? Ben, parce qu'on a choisi un certain nombre. Voilà. Et ici, donc, dans l'enfance, dans les souvenirs d'enfance de Cohen, les moments privilégiés, bien entendu, pour le jeune enfant, le premier, ça va peut-être être le baiser du soir, hein, qui joue un petit peu le même rôle que la veilleuse, hein, et le même rôle que l'histoire de mon ami un écureuil. Hein, là, je ne sais pas si on a commenté mon ami un écureuil, mais ça mériterait un petit commentaire. Pourquoi ? Parce qu'on attendrait plutôt mon ami l'écureuil. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça apporte que ça soit mon ami un écureuil ? Ça apporte que l'idée que le personnage est un personnage inventé. Hein, vous avez au lieu d'avoir l'article défini, vous avez un article indéfini, et vous savez que cette imprécision des personnages, cette imprécision du lieu, cette imprécision du temps, c'est typique des contes de fées. Hein. Donc, ce conte que raconte la maman de Cohen avant qu'il s'endorme, eh bien, c'est une forme de conte de fées. Alors, même rôle, donc, pour la veilleuse, pour le conte et les baisers du soir, c'est-à-dire rassurer l'enfant avant la nuit, hein, que le préparer, le défendre en partie contre les angoisses de la nuit. Dans ces moments privilégiés, on en a parlé tout à l'heure, les journaux illustrés du jeudi, donc c'est un apport de l'extérieur, un apport de quoi ? Ben, ça apporte des histoires, justement. Hein, autrefois, on attendait avec impatience, par exemple, le journal de Spirou, ou bien le journal de Mickey, hein, la suite des histoires, puisque c'était, pour une part, il y avait des histoires entières, mais il y avait beaucoup d'histoires à suivre, et on attendait donc avec le facteur la suite des histoires, hein, la suite des bandes dessinées. Donc, les journaux illustrés du jeudi. Alors attention que le jeudi, oui, ça, ce qu'il ne faut pas oublier de dire, le jeudi de cette époque, c'est notre mercredi. Hein, c'est-à-dire, c'est le jour de liberté. Alors, jour de liberté qui, au départ, devait être consacré à l'éducation religieuse. Hein, c'était normalement le jeudi, le jour du catéchisme pour les catholiques, mais Cohen n'est pas catholique, hein, il est juif. Néanmoins, c'est le jour consacré à la fois à la liberté et à la religion. Hein, donc c'est pour ça qu'il nous dit, les journaux illustrés du jeudi, ça veut dire, jeudi, ça veut dire pas d'école. Hein, ça veut dire aussi pas d'école. Les convalescences, eh ben voilà, il y a le même lien, hein, l'idée de je suis malade, je ne vais pas à l'école. Hein, moment privilégié, d'abord parce qu'on vient de souffrir, parce qu'on a été malade précédemment, et que, enfin, on peut profiter du fait de ne pas aller à l'école. Hein, puisqu'au départ, on ne va pas à l'école, mais on ne se sent pas bien, donc c'est pas bon encore, et au moment de la convalescence, ça va être meilleur. Ensuite, on peut arrêter en ce qui concerne les centres d'intérêt, mais il ne faut pas laisser passer ce texte-là sans faire l'inventaire des notations sensorielles, hein, c'est-à-dire se poser la question à quel sens, c'est-à-dire la vue, l'odorat, le toucher, le goût, l'ouïe, à quel sens s'adressent les remarques de l'auteur. Alors, on relèvera, bien entendu pas la totalité, mais un exemple au moins de chaque, correspondant à chacun de nos sens. Exemple, la vue, on pourrait prendre les chromos, hein, en ce qui concerne, mais peut-être aussi les coussins brodés de petits chats rassurants, hein, ça s'adresse aussi à la vue, hein, même s'il y a l'évocation du toucher. Louis, ben, moi j'aurais retenu au moins les chansons de maman, hein, vous avez les chansons de maman en ce qui concerne Louis. Le toucher, Eh bien, moi, je dirais, je mettrais en premier, bien entendu, les baisers de maman. L'odorat, eh bien, vous avez, bien entendu, odeur naphtaline, mais tisane peut évoquer également les odeurs. Et le goût, eh bien, on pourrait mettre dans le goût confiture, tisane, mais je pense qu'on avait l'évocation tout à l'heure, si je ne me trompe pas, du chocolat. Je pense que pour le petit enfant, pour le goût, il faut surtout pas oublier le chocolat. Hein, c'est vraiment... voilà, ça passe avant les confitures, je pense, le chocolat. Hein. Les tisanes et les confitures, c'est plutôt du côté des plaisirs de bouche de la maman. Hein, que des plaisirs de bouche de l'enfant, hein, même s'il a le droit d'aimer, bien entendu, la confiture. Voilà, on a terminé en ce qui concerne les centres d'intérêt. Dernier point, petit 5, le bonheur enfui. Hein. Donc on a ici la problématique de l'autobiographie, hein, c'est-à-dire autobiographie, bonheur, c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire résurrection de l'enfance, on revit dans son enfance, hein, donc c'est plutôt quelque chose d'heureux, et en même temps, autobiographie, malheur, hein, c'est-à-dire, comme il le dit très bien dans son texte, tout ce que je n'aurai plus, hein. Donc il y a bien entendu l'évocation ici d'un regret, hein, regret du passé, et j'ajouterais, si on regarde la dernière phrase, hein, ma mort approche, inquiétude, bien entendu, quant à l'avenir. Et c'est d'ailleurs cette inquiétude quant à l'avenir qui va déclencher certainement le projet autobiographique. J'écris mon histoire parce que je sens que bientôt, je ne serai plus en état de l'écrire, et que bientôt je ne serai plus là. Hein, donc je l'écris pour moi, d'une certaine façon, pour faire une sorte de bilan, et je l'écris pour les autres, pour qu'ils gardent, comme dirait Montaigne, hein, pour qu'ils gardent un souvenir, une image de moi. Hein, ça joue un peu, un rôle un peu plus complet que celui de l'album photo, mais un rôle de même nature que celui de l'album photo. C'est-à-dire, cet album, nous, on va le feuilleter, hein, pour revivre une partie des événements. Et puis cet album, ça sera une trace pour ceux qui le consulteront après, quand on ne sera plus là. Hein, voilà. Symétriquement, des invocations précédentes, des trois invocations précédentes qui faisaient revenir le souvenir, hein, vous aviez « Ô mon passé, ô chambrette et ô mon enfance », là vous allez avoir trois nouvelles invocations, mais trois invocations, au lieu de vous faire rêver, qui vous ramènent à la réalité. À la dure réalité. Hein. Donc ces trois invocations qui vont revenir, elles ferment la route au rêve, hein, et ramènent à la réalité. Alors ça commence durement, c'est-à-dire par ce que je vous ai dit tout à l'heure, « Ô tout ce que je n'aurai plus hein. !» Exclamation, cette fois-ci, complètement douloureuse. Hein. « Ô tout ce que je n'aurai plus, ô charme, ô son mort du passé. » Hein, remarquez, bien entendu, la présence du mot « mort », et comme on avait relevé ma mère morte dans le passage précédent. Hein. Les sons morts du passé, qu'est-ce que c'est les sons morts du passé? Moi, je dirais, c'est la voix de la mère, la voix... On essaie de ne pas l'oublier, la voix du père. Hein, parce que je vous ai dit aussi, à propos de ce texte, qu'il est écrit juste après la mort du père, hein, père dont on ne parle pas, mais je pense que cette mort du père est présente à l'esprit, hein, de Cohen. Même si on parle de votre langue maternelle. Hein, c'est la mère qui apporte le... C'est la mère qui apporte le langage. Donc les sons morts du passé, c'est la voix de la maman, certainement, ses chansons. Hein. Alors ce qui souligne l'idée de désillusion dans ces phrases-là, c'est l'emploi de l'adjectif mort, on vient de le dire, et puis l'emploi de la négation dans la première, c'est-à-dire tout ce que je n'aurai plus. Hein. Alors, à remarquer une figure de style particulière, ça fait toujours plaisir un peu. Hein, fumer enfoui et dissous de saison, ça s'appelle un chiasme. Pourquoi ? Parce que vous avez la structure ABBA. Hein. Je vous rappelle que le chiasme s'écrit chiasme, C-H-I-A-S-M-E. Hein. Vous avez fumé, c'est le A, c'est un nom. Enfoui, le terme B, c'est un adjectif. Et en face, symétriquement, vous avez dissoute, terme B, l'adjectif, et saison, terme A, le nom. Hein. Alors, c'est bien de relever la figure de style, mais il faut aussi se demander à quoi ça sert, hein, ou quel est l'effet produit. Ça ne sert à rien de dire il y a telle figure de style si on ne va pas derrière dire quel est l'effet produit. Alors ici, l'effet produit, c'est quoi ? On peut dire du chiasme que c'est une construction fermée, et en tant que construction fermée, eh bien, elle donne l'impression de clore, de fermer l'espoir, hein, ces fermetures de l'espoir, de résurrection du passé. Hein, l'espoir aussi peut-être quelque part de vie éternelle. Hein. Vous avez donc cette impression de résurrection du passé qui a été installée un instant, et ce chiasme vient le terminer. Et vous rappelez que la mort de ses parents renvoie les souvenirs de l'enfance heureuse dans un temps qui est enfui irrémédiablement. Hein, ce qui est exprimé par la métaphore « les rives s'éloignent ». Les rives s'éloignent, ça veut dire le fleuve du souvenir, hein, le fleuve du souvenir se jette dans la mer de l'oubli. Hein, c'est-à-dire qu'on arrive à l'embouchure. À l'embouchure, mais l'embouchure, c'est précisé derrière, l'embouchure, c'est la mort. Hein, le fleuve se jette dans la mer, mais pour nous, le temps nous jette dans la mort. Hein, c'est l'idée très joyeuse sur laquelle conclut Cohen. Hein, et dans lequel il dit ma mort approche. Hein, c'est-à-dire ce qu'on peut dire, la mort des parents, l'avait déjà dit, annonce la mort du narrateur. Hein, mes parents sont morts, c'est maintenant à mon tour de mourir, ça va être mon tour. Et puis le petit terme sur lequel on peut conclure aussi, c'est que l'évocation du bonheur est toujours inséparable de l'évocation de la mort. Hein, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que le bonheur c'est toujours quelque chose de provisoire, et c'est toujours quelque chose d'éphémère. Hein, c'est-à-dire qui ne dure pas. Voilà. Donc on considère qu'on a terminé celui-là. Je vais vous donner, il y en a peut-être qui l'ont déjà fait, mais tant pis, les autres le feront. Je vais vous donner un questionnaire sur le texte suivant, et puis vous tâcherez d'y répondre d'ici la prochaine fois. Et on y répondra, nous, ensemble, mercredi prochain. Voilà, donc dans ce questionnaire, vous avez à la fois les questions et le texte qui est rappelé au début. Donc pour mercredi prochain, vous tâchez de lire le texte et de répondre aux questions qui peuvent vous servir d'orientation pour une explication ou un commentaire. Aussi, pour ceux qui demandaient au CDI, sur au moins deux ordinateurs, j'ai mis un raccourci qui conduit directement. Donc, il y a deux postes en entrant un dans la bulle et un en dehors de la bulle, qui renvoie directement dessus. Voilà, si vous n'avez pas de questions, j'ai terminé là, pour aujourd'hui. Toujours la même chose. Comment ?
Au niveau des bacchorales,
oui.
C'est sur tous les textes que vous en choisissez, c'est un sur quatre, c'est ça ?
Voilà. Voilà, on fait comme un véritable oral, on te donne ta question et tu le prépares pendant une demi-heure et on te fait passer après pendant 20 minutes. Comment ?
CD ou pas ? Manuellement, on n'a pas le droit, on ne fera la préparation.
Alors,
sur votre site, je vais vous connaître en manuel.
Voilà, dans la mesure où certains textes sont extraits du manuel, tu as le droit d'avoir le manuel. Mais bon, c'est un peu compliqué puisque tu as les photocopies des textes. Hein, donc on peut te dire le manuel n'est pas indispensable. Hein, mais c'est une question que j'ai posée à l'inspection et on m'a toujours répondu. Dans la mesure où il y a des textes qui sont extraits du manuel, vous avez droit au manuel. Voilà. Sache que tu n'as pas beaucoup le temps de t'en servir, c'est du manuel.
Ouais,
voilà, c'est ça le problème, parce qu'en une demi-heure, c'est vraiment très court pour préparer. Hein, c'est vraiment... En préparer, tu viens, on te donne ta question. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est si vous ne comprenez pas la question... Le professeur doit vous demander si vous avez compris la question. Si vous ne comprenez pas, bien entendu qu'il ne va pas y répondre à la question. Hein, vous pouvez lui dire que vous ne comprenez pas. Voilà, on vous explique, on vous donne quelques détails qui vont vous... Parce que quelquefois, c'est une question de vocabulaire aussi. Hein. C'est donné dans des termes un peu élégants que vous pouvez avoir du mal à comprendre. On vous le redit d'une façon un peu plus terre-à-terre, de façon à vous lancer. Surtout, n'oubliez pas, si vous ne comprenez rien à la question, demandez une explication, ça ne sera pas compté négativement par le professeur. Par contre, ce qui est interdit de faire, c'est de faire des remarques sur la façon dont sont passés les cours dans l'année, etc. Ça, c'est complètement interdit et mal vu. Ça, il faut le savoir.
Comment ça?
Tu n'as pas le droit de faire réflexion sur la façon dont se sont passés les cours dans l'année. Et nous, on n'a pas le droit de faire de remarques sur l'organisation de la liste, etc. On n'a même pas le droit de faire de remarques sur votre prestation à l'oral. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de vous dire si c'est bien ou pas bien.
Hein?
Comment ? Bah, si l'examinateur est content, vous pouvez vous en rendre compte, oui. Hein? Mais ça, ce sont des précautions pour éviter de dire... Parce que quelquefois, on dit aussi bien... pour dire c'est terminé, quoi, on passe à la suite. Et si l'élève comprend que c'est bien et qu'après ça, il a une mauvaise note, il va pas comprendre, quoi, en quelque sorte. Hein.